'cause I know we'll make up soon. Waking up with you every day is June. As long as you bring it, I'll keep riding, sing it, yeah, yeah. Bring it on, bring it on. As long as you bring it, I'll keep riding, sing it. Sing, yeah, yeah. Bring it on, bring it on. As long as you bring it, I'll keep right on singing, yeah, yeah. Bring it on, bring it on. As long as you bring it, I'll keep right on singing, yeah, yeah. Bring it on, bring it on. As long as you bring it, I'll keep right on singing.
Semaine, retrouvez Jack à Québec.
C'est bon d'être là.
Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. Et nous retrouvons Gilles Moreau pour le journal. Bonjour Gilles.
Bonne journée à vous Emmanuel Bastide. Bonjour à tous. Dans l'actualité, les premiers pas du nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham. Le successeur de Keir Starmer affiche sa volonté de rupture. Quant à son style, il se veut plus proche des préoccupations du quotidien, nous dira dans un instant notre correspondante à Londres. Au Moyen-Orient, une 9e nuit consécutive de frappes. Le Koweït et Bahreïn ont de nouveau été attaqués par l'Iran. Réponse à des salves américaines qui s'étendent à travers l'Iran. Les armes continuent aussi de parler entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 400 drones lancés la nuit dernière en direction de la région de Moscou. Dans ce journal aussi, le retour au pays des héros. L'avion qui ramène les nouveaux champions du monde de football est attendu à Madrid. Toute l'Espagne a commencé à célébrer le titre décroché hier soir à New York aux dépens de l'Argentine. Changement à la tête du Royaume-Uni, donc c'est aujourd'hui qu'Andy Burnham, le nouveau chef des travaillistes, prend ses fonctions de Premier ministre. Keir Starmer a prononcé ce matin un court discours d'adieu devant le 10 Downing Street. Son successeur, reçu par le roi Charles III, affiche déjà sa volonté de rupture. Sidonie Gaucher, vous êtes en direct de Londres.
Oui, et le balai des prises de fonctions ministérielles, ici, on commence à le connaître puisque Andy Burnham est le 7e Premier ministre en 10 ans. Alors, on connaît l'arrivée en voiture à Downing Street, le salut à la presse devant la célèbre porte noire. Andy Burnham va entrer, ressortir et dans quelques minutes, il va prononcer son discours d'investiture. Et ce que l'on sait, c'est qu'il ne compte pas y résider exclusivement. Son idée, c'est de créer un Number 10 North, c'est-à-dire une antenne de Downing Street à Manchester pour, dit-il, rendre le pouvoir aux communautés. C'est d'ailleurs son slogan. Son autre priorité affichée, c'est le coût de la vie et les services publics. Burnham promet des investissements pour les services de santé et les transports et laisse entendre que l'État pourrait reprendre la main dans le secteur de l'eau, une autre problématique d'envergure ici. Pour la presse britannique, pour l'instant, tout cela relève surtout de l'effet d'annonce. On attend dans l'après-midi des précisions sur la composition définitive du nouveau gouvernement. Une chose est sûre, le style Burnham se veut plus proche des préoccupations du quotidien, reste désormais à transformer ses promesses en décisions concrètes.
Sidonie Gaucher à Londres pour RFI. La Russie fait état d'une attaque nocturne et massive de l'Ukraine contre Moscou et sa région. Les drones ukrainiens en nombre de plusieurs centaines ont selon elle fait 10 blessés et provoqué un incendie sur un important site industriel. Il est situé près de la ville de Domodedovo, où se trouve aussi l'un des aéroports internationaux de Moscou. Sacrée championne du monde contre l'Argentine, l'équipe d'Espagne vient d'écrire une nouvelle page magnifique du football espagnol. Après le sacre, place aux retrouvailles populaires. Le retour est prévu en cette mi-journée avant une rencontre avec le roi et le défilé à Madrid à bord d'un bus à l'Impérial. Hier soir à New York, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a assisté au sacre de la Aurora depuis les loges VIP. Seuls quelques sièges le séparaient de Donald Trump. Le président américain ne manque jamais une occasion de critiquer l'Espagne. Mais hier soir, les deux hommes, Julien Chavannes, ont fait comme si tout allait bien.
Il y a bien eu une poignée de main, des sourires crispés et un entretien dont rien n'a filtré. Donald Trump et Pedro Sanchez ont mis de côté leurs différences le temps d'un match de football. Il n'y a aucune tension, je n'ai aucune tension avec personne, assure le président américain après le match. Et bien sûr, on n'est pas obligé de le croire. Donald Trump a une dent contre l'Espagne depuis un moment. Dernier épisode en date, il y a quelques jours au sommet de l'OTAN en Turquie, le locataire de la Maison Blanche avait traité les Espagnols de mauvaises personnes, parlant d'un pays sans espoir et menaçant une nouvelle fois de stopper les échanges commerciaux avec Madrid. L'opposition du socialiste Pedro Sanchez à la guerre en Iran, son refus de dépenser plus pour l'Alliance Atlantique, sa politique migratoire à rebours de celle de l'Américain, tout sépare les deux hommes. Et c'est pourtant à ce pays détesté que Donald Trump a remis le trophée de son mondial. Lui qui aura tout fait pour personnaliser la compétition, voit l'un de ses adversaires profiter de la coupe, de ses célébrations et des retombées économiques et politiques.
Au Moyen-Orient, toujours des échanges de frappes entre Iraniens et Américains. Depuis la reprise des hostilités le 7 juillet, les États-Unis avaient surtout ciblé les régions du sud, près du Golfe. Mais depuis quelques jours, le conflit s'étend. Les derniers bombardements ont touché le centre et le nord-ouest de l'Iran. L'Iran qui a riposté en ciblant à nouveau les alliés de Washington, Koweït et Bahreïn, tout en assurant que les efforts diplomatiques se poursuivaient via les médiateurs. Cette reprise des hostilités continue de faire grimper les prix du pétrole, ce qui pénalise les pays les plus dépendants des cours mondiaux. C'est le cas de l'Inde, qui importe 90% de ses besoins en pétrole et dont l'économie souffre de faiblesses structurelles. Jeanne Bartoli, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce matin, Jeanne, la roupie a chuté à son plus bas niveau depuis deux mois.
Oui, c'est une lente dépréciation qui s'est accélérée sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. L'Inde est en effet, Gilles, extrêmement dépendante de ses importations en pétrole, du pétrole qu'elle paye en dollars. Les entreprises indiennes vendent donc des roupies pour en obtenir. Mécaniquement, la demande de dollars augmente alors que l'offre de roupies est abondante. Le 28 février dernier, date du début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, un dollar s'échangeait contre 91 roupies. Aujourd'hui, il s'échange contre 96 roupies. Pour tenter de limiter la casse, New Delhi soutient sa monnaie avec notamment la vente de dollars par des banques publiques. Mais pas sûr que cela soit suffisant. L'économie indienne pâtit en effet de défis internes. La baisse de la natalité dans les grandes villes, des problèmes d'infrastructures et une fuite de capitaux étrangers, comme l'explique Jean-Joseph Boileau, conseiller économique à l'IRIS.
Sur les investissements étrangers, on arrive à voir cette chute très importante. Hein. Dans une période d'incertitude internationale, des capitaux se sont rués sur les États-Unis. Donc vous avez eu des sorties de capitaux qui s'étaient placées sur la bourse indienne, hein, qui étaient rentrées, donc on va dire c'est 4-5 dernières années, d'accord ? Et là, qui sont sortis.
Voilà désormais l'une des priorités pour enrayer la baisse de la monnaie, c'est de réduire le déficit commercial et de limiter certaines importations qui amenuisent un peu plus les réserves de change.
Jeanne Bartoli du service économie, merci à vous. Également dans l'actualité de ce début de semaine, une montée des tensions entre les deux grandes villes que sont Jérusalem et New York. Le bureau de Benjamin Netanyahou a vivement réagi aux propos du maire de la mégalopole américaine, Zohran Mamdani. Celui-ci dit étudier les options solutions légales pour faire arrêter le Premier ministre israélien lors de sa venue à l'ONU en septembre. Les précisions à Jérusalem de Michel Paul.
Pour le cabinet de Benjamin Netanyahou, la menace est jugée farfelue, mais l'affront exigeait une réplique. Jérusalem accuse directement l'élu new-yorkais de vouloir faire diversion pour masquer ses propres échecs politiques. Dans un communiqué cinglant, le bureau du Premier ministre rappelle que la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt contre le dirigeant israélien, n'a aucune compétence sur les citoyens israéliens ou américains. La diplomatie israélienne va plus loin et compare la démarche du maire de New York à celle de Karim Khan, l'ancien procureur de la CPI, lui aussi accusé par Israël d'avoir instrumentaliser la justice internationale. Quoi qu'il en soit, malgré les menaces de Zohran Mamdani d'utiliser la police de New York, Benjamin Netanyahou a déjà confirmé qu'il ne renoncerait pas à son déplacement en septembre prochain pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Une partie de l'Europe reste confrontée à une forte sécheresse qui favorise les incendies de forêt. En France, des incendies font rage actuellement dans le sud et outre la France, des pays d'Europe comme le Portugal, l'Espagne ou la Grèce et même l'Allemagne, dans une moindre mesure, tous ces pays sont affectés par des feux de forêt. Allez, une page cinéma pour fermer ce journal. L'aventure rêvée a remporté le prix du jury au dernier festival de Cannes. Il s'agit du 4e long métrage de la réalisatrice allemande Valeska Griesbach, Sophie Torlotin.
Valeska!
Une archéologue quinquagénaire, Valeska, retourne dans sa ville natale de Zvilengrad, au sud de la Bulgarie, superviser un chantier de fouilles. Elle y retrouve un ami d'enfance, Saïd, un slave musulman, venu acheter de l'essence de contrebande. Sa disparition va inciter Valeska à enquêter, quitte à se retrouver prise malgré elle dans une rivalité entre deux chefs mafieux. La réalisatrice allemande Valeska Griesbach explore et sillonne cette zone transfrontalière des confins européens gangrénée par les trafics divers. Sereine et déterminée, son héroïne, Valeska, évolue dans un monde d'hommes où la violence reste latente et menaçante. Tenant à la fois du thriller et du western, l'aventure rêvée invite les spectateurs à s'identifier avec ce personnage qui revisite son passé, porté par la formidable interprète Yana Radeva, une actrice non professionnelle qui illumine le film de sa force tranquille.
Sophie Torlotin, l'aventure rêvée vient de sortir dans les salles françaises. Ainsi s'achève le journal. L'information revient dès 13h30 avec RFI Midi, présenté par Paul Loncin-Spinelli.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI. Grand reportage, Jacques Alix.
Au fil des mois et d'une guerre qui s'enlise en Ukraine, la Russie a accéléré le recrutement de combattants africains pour son invasion du pays. Il serait aujourd'hui entre 3 et 4 000 à être concernés. Certains se retrouvent au front, en connaissance de cause, d'autres par tromperie, persuadés de quitter l'Afrique pour une place à l'université ou un emploi. Aujourd'hui, le voile se lève sur ce système de recrutement basé sur des agences de voyage et des opérateurs d'influence entre Moscou et le continent africain. Et les mises en garde de personnes prises au piège se multiplient, comme vous allez l'entendre dans ce grand reportage réalisé par le service Afrique. Des sirènes russes au mouroir ukrainien, les combattants africains de Vladimir Poutine nous emmènent au Kenya, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Le récit est de François Mazet.
Nous sommes à Mukurweini, dans le centre du Kenya, à un peu plus de 2 heures de route au nord de Nairobi. En ce matin de début février, 200 personnes environ se retrouvent dans le jardin familial de Bibiana Wangari. Parmi elles, Alban Tiroir, la correspondante de RFI. Ce sont des funérailles, mais la cérémonie se déroule sans corps et sans cercueil. Des bougies ont été déposées sur une tombe symbolique. En contrebas, Charles Waitaka, dit Charlo, le fils de Bibiana, avait 30 ans. Parti en octobre en Russie, sa famille a perdu le contact vers Noël. C'est sur Facebook que sa mère a appris son décès en Ukraine.
So I woke up one day.
Je me suis réveillée
oui,
un jour.
Oui, allô, vous avez un message.
Radio HDR, le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM.
Je vous remercie de votre attention.
HDR 99.
Shall we die in your living room for you to kiss it? Bombs in your bed to make you aware we are underfed. Feel the cold and the fear. These ashes and blood when we kiss our peers. Are we sad and disconnected by the phones you made? Or crushed by capitalism and being slaves? Post-traumatic stress, walking down the streets, daring to try, do the right thing. I don't know what's gonna kill us fast. Your decisions are the pain and hope that fuels our fights, our lies, days and nights. Story someone did already write. How do we keep dancing when the world falls down? A well they built, sucking on pills and drinks to forget you made us hate ourselves. Fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself.
As heartbeats ring percussions, fallen trees ring repercussions. Cities play upon our souls like broken drums. We drum the essence of creation from city slums. But city slums mute our drums, and our drums become humdrum. Cause city slums have never been where our drums are from. Just the place where our daughters and sons become offbeat heartbeats, slaves to city streets. When hearts get broken and heartbeats stop, broken heartbeats become breakbeats for niggas to rhyme on top. But I won't rhyme on top, no chance. Niggas on the chain gang used to do that way back. I won't rhyme over traps. Niggas on the chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Not until you listen to Rakim on a rocky mountaintop have you heard hip-hop.
Yeah.
Extract the urban element that created it and let an open wide countryside illustrate it. Riding in a freight train in the freezing rain, listening to Coltrane, my reality went insane. And I think I saw Jesus. He was playing hopscotch with Betty Carter, who was cursing him out in a scat like gibberish for not saying Butterfingers. And my fingers run through grains of sand like seeds of time. The pains of man, the frames of mind which built these frames, which is the structure of my earth.
urban superstructure. The trains and planes can corrupt and obstruct your planes of thoughts so that you forget how to walk through the woods, which ain't good cause you ain't never walked through the trees listening to Nobody Beats the Biz, and you ain't never heard hip hop. And you must stop that damn track from going. Please don't drop the beat. Don't drop the beat, no. Well, I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain ain't used to do that. Way back. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain ain't used to do that. Way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat. Heartbeat. My heartbeat goes on.
Yeah. planète.
Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements, donc l'ouest de l'Occitanie. Et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliqué dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation avant des projets pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique ?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant qu'APNE, Association de Protection Naturelle de l'Environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet.
Donc c'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès aux dossiers sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels, aujourd'hui, il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc, c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter des avenants, on risque pour certains dossiers d'avoir d'arriver à une confrontation qui soit beaucoup plus musclée de la part des populations locales. Je donne un exemple, l'EDREAL le confirme.
L'EDREAL est direction régionale à l'environnement, je ne sais plus.
De l'environnement et du logement. Que lorsqu'on fait une simple consultation publique, et beaucoup de cas maintenant passent en consultation publique, c'est-à-dire dématérialisée sur Internet, et non des enquêtes.